RMC.
Mount the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Basket time, c'est parti. C'est le numéro que vous attendez impatiemment puisque c'est le retour de la saison NBA. La Dream Team est au grand complet avec Arnaud Valadon, Frédéric Weiss et Stephen Brun. Bonjour messieurs.
Salut Pierrot.
Salut.
What time is it, Pierrot?
It's game time, Steve. T'es chaud, Fred?
Oui, ça va.
Fred, il est chaud parce que je lui ai concocté un débat sur mesure pour tout à l'heure. Alors, c'est un spécial début de saison NBA. Donc là, ça va être très simple. Hein. Vos pronostics à l'Est, vos pronostics à l'Ouest avec... la franchise favorite, avec une surprise peut-être à venir, une déception, que vous pressentez un joueur à surveiller sur chaque côté des États-Unis. Et puis dans la partie historique, nous allons refaire un débat qu'on a fait il y a quelques années. Quelle est la plus grande franchise? Les Lakers ou les Celtics? Car les choses ont changé. Depuis le 18e titre des Celtics, désormais, il n'y a plus d'égalité au palmarès. Et ça, ça peut changer la donne, Fred.
C'est qui la plus grande franchise en France? C'est Pau ou c'est Limoges?
C'est Limoges.
C'est l'Asvel, non?
Je ne sais pas qui a un titre d'Euroleague. Limoges.
Ah, c'est vrai que ça
donc,
compte.
Donc
hein.
C'est l'OM le plus grand club français.
Oui.
Jusqu'à quand?
Jusqu'à quand? Ça, c'est une autre question.
Non,
mais...
ce qui est intéressant dans ces débats, c'est quelle est la part du palmarès? C'est ça qui est très intéressant dans ces débats. Puisque le palmarès ne fait pas tout, sinon on dit bon bah c'est les Boston Celtics, puis terminé, on passe à la suite, on écoute un autre podcast, on va charger.
Mais qu'est-ce qui fait le plus rêver là?
Le palmarès, tous discutent.
Tous discutent,
même le palmarès.
C'est ce qu'on va faire. Et alors je peux vous prévenir que j'ai jamais vu Fred préparer autant un épisode de Basket Time. Donc il va nous sortir des stats hallucinantes sur le débat historique. Et puis le quiz, il n'y aura rien de compliqué, mais les questions ne sont pas faciles. Et là aussi, je te laisse réfléchir sur cette phrase.
Oui, cette phrase n'a aucun sens non plus. Okay.
Avant de démarrer, on a des jeux NBA 2K25 à vous offrir. Pour ça, vous allez sur le compte Twitter d'RMC Sport tout de suite et vous suivez simplement la procédure pour gagner votre jeu NBA 2K25. C'est parti.
Let's get ready to rumble.
Irving for the win. Oh my God.
Shai Gilgeous-Alexander, his step back three. Shai Gilgeous-Alexander!
Oh, how about Jokic with an incredible pass to Aaron Gordon? Every night we see something new from Nikola Jokic.
Here is Durant. He turns, he shoots. Yes!
Edwards gets it back and threw it down! And one!
That was ridiculous.
DeLuca late in the shot clock in desperation.
Allez, pronostic de la saison démarre par la conférence Ouest, la conférence la plus dense, incroyablement dense d'ailleurs. Peut-être que dans l'histoire récente, c'est la conférence la plus relevée qu'on ait eue ces dernières années. Alors, qui démarre? On va aller au hasard, Stephen Brun.
Oui, bonjour démarres. Pierre.
Qui est ton favori? Quelle franchise favori, peut réserver une surprise? Quelle déception pressentie? Est-ce qu'il y a un joueur que tu veux nous
J'enchaîne tout, j'enchaîne tout.
Je sais pas, comme vous voulez, hein.
Si veut, c'est toi qui décide.
Allez, commence par le favori.
Je vais dire OKC. Je vais dire OKC parce que les dernières c'était déjà le leader de la conférence Ouest et puis ils se sont renforcés. Caruso, Hartenstein, le petit Rocky Topic qui j'espère va avoir quelques minutes. Chet Holmgren qui va être encore meilleur que la saison dernière.
Hartenstein blessé en début de saison, bon ça va durer un mois ou deux, mais
oui ça va pas non plus.
Ça va pas non plus changer la saison.
Non, mais c'est une équipe qui est jeune, que des mecs qui vont progresser. Ils ont pas énormément bouleversé l'effectif, donc je vois pas.
Mais tu les vois devant Denver?
Oui.
Tu les vois devant Dallas?
Oui. Oui, je les vois devant Dallas, en saison régulière. Bien sûr, je pense qu'ils vont terminer premier de la conférence. Ouais.
Arnaud ?
Je ne suis pas original, je trouve OK ici aussi, parce que la continuité, intéressant d'avoir Caruso pour avoir un guard peut-être un peu plus défensif, avec Shai Gilgeous-Alexander notamment. On n'oublie pas, on va parler de Chet Holmgren qui va monter en puissance, mais aussi Jalen Williams qui est très intéressant comme poste, comme ailier. Franchement, cette équipe, elle était à 40 victoires il y a 2 ans, 57 l'an passé, elle était à moins de 20 il y a 3 ans, cette montée en puissance, et je pense qu'ils seront peut-être pas loin de tutoyer les 60 victoires dans cette conférence Ouest. Et puis on sent un peu cet esprit. Est-ce que Minnesota va pouvoir matcher avec tous les changements qu'ils ont faits? Parce que peut-être que, allez, sur une saison régulière, je vois les Wolves aller avec les Nuggets pouvoir se disputer le poste de numéro 1 à l'Ouest. Oui, je pense que ça ne va pas sur les top teams. Quand tu prends le classement de l'année dernière, le Thunder, 57 victoires, Denver, 57 victoires, Minnesota, 56 victoires. Je pense qu'on va encore avoir peut-être ce trio par rapport aux autres. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ce trio est celui qui va aller au bout à l'Ouest.
Mmh, oui, oui, mais sur la saison régulière, tu vois ces trois-là et pas vraiment de préférence, Fred.
Alors moi, j'ai rien compris. Je pensais que c'était celui qu'on pronostiquait comme le champion à l'Ouest. Oui. Et pour moi, le champion à l'Ouest, c'est pas celui qui finit le premier de la saison régulière. Donc moi, c'est champion à l'Ouest. Et pour moi, j'ai choisi Dallas.
Tu as choisi Dallas.
Ben oui, j'ai choisi Dallas. Alors, OK, ici, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est fantastique, ça a progressé. Je trouve que c'est encore un petit peu jeune, encore un petit peu tendre. Mais par contre, Dallas, ils viennent d'être champion à l'Ouest. Ils viennent de jouer la finale NBA avec Luka, Kyrie, Clay à l'extérieur. À l'intérieur, tu as Lively, Washington, Gafford. Je trouve que c'est quand même super intéressant. Tu as récupéré Dinwiddie, Marshall, tu as re-signé Jaden Hardy, tu as Grimes, qui est plutôt un très bon joueur, qui n'a pas été re-signé, donc il va voir tester le marché. Exum, qui peut venir pour défendre un petit peu. Powell, Kleber à l'intérieur pour aider les trois précités. Moi, je trouve que c'est une équipe qui peut être intéressante, avec en plus la possibilité pour Luka d'être MVP lui aussi. Et aussi, surtout, ils viennent de sortir d'une finale NBA. Donc, plus d'expérience, du vécu, une équipe qui a progressé. Et je trouve que l'ajout de Clay...
Alors, Clay, qu'est-ce qui va apporter Clay Thompson?
Alors, honnêtement, c'est plus le Clay qu'on a connu. Mais déjà, l'expérience, on ne sait pas exactement ce qu'il va donner. Mais quand tu as à côté de toi Kyrie Irving et Luka Doncic, forcément, tu sais que tu peux te tenir tranquille dans le corner, à attendre que le ballon arrive. Et si tu mets à 3 points, ce qui est quand même sa grande force depuis le début de sa carrière, ça peut être hyper intéressant. Donc, je me dis, franchement... force de frappe intéressante, intérieur intéressant, des remplaçants qui ont été ajoutés qui me déplaisent pas du tout.
De l'expérience
De l'expérience accumulée.
Stephen, le supporter des Mavs, il est d'accord avec ça ou pas?
Écoute, moi j'ai l'impression que l'année dernière, ils ont surperformé, que ce n'était pas attendu en finale NBA, et je sais pas pourquoi, mais j'ai quelques doutes cette année sur les Mavs. Je te dis pas que ça va être une mauvaise équipe, mais de là à pouvoir retourner en finale, parce que le next step c'est quoi? C'est d'être champion NBA.
C'est champion, oui.
Donc quoi qu'il arrive, maintenant si tu fais moins bien, c'est-à-dire que
la saison
elle est ratée. Je sais pas, j'ai des incertitudes sur Clay Thompson.
Ok.
Qui, quand il était à Golden State, c'était un vrai trousseau. Là, il a plus que la clé de la cave. J'ai l'impression sans trousseau. Donc, il a fait un match de pré-saison, il a pas mis un tir. Il a fait un 0-10, je crois, en pré-saison, un 0-9. Ouais. Je sais pas. Clay Thompson, il a voulu s'émanciper, se dire je suis capable d'être bon ailleurs. Et puis quand tu rejoins Luka et Kyrie, tu prends pas énormément de risques, tu sais où tu vas avoir les ballons dans tes spots préférés.
Défensivement, il n'y a plus besoin de forcer autant parce que derrière, tu as des mecs qui peuvent protéger. Il peut plus. Donc, tu peux s'économiser quelque part parce que derrière, tu as les mecs qui peuvent défendre dur. Moi, je trouve que l'équipe est quand même intéressante.
Donc, un doute sur Dallas pour Steve. Arnaud, un mot à rajouter?
C'est assez excitant à voir quand même cette équipe de Dallas avec ce que Clay va donner et surtout pour la première fois depuis 4 ans, un Luka qui. Était vraiment en vacances cet été.
Ouais, parce que c'était Pierre.
Oui, ça par contre, c'est une très connue.
Ça, je sais pas, on dit souvent... piano et qu'il monte en puissance, c'est pas plus mal.
On dit souvent qu'il est rôti à chaque fin de saison parce qu'il enchaîne avec des étés.
Mais derrière, il était pas rôti. Hein.
Écoute, avec l'accumulation, oui, il était pas rôti, mais à chaque fois, tu sais que son corps grince un petit peu, ça couine. Et là, avec un été totalement frais, alors... votre inquiétude, c'est est-ce qu'il a pris un peu de poids?
C'est pas grave, ça,
évidemment.
Surtout, qu'est-ce qu'il a fait cet été, vu qu'il n'avait pas l'équipe nationale?
Oui, le rythme, il a le temps de le reprendre, justement, sur 82 matchs de saison régulière.
Est-ce qu'il va pas être encore plus en mode je démonte tout, quoi?
Est-ce qu'il y a une équipe à surveiller? Une équipe qui vous excite? Houston, pour Arnaud.
J'ai la même.
Houston, moi, avec un coach, donc Ime Udoka, ça s'était mal terminé à Boston pour des affaires un peu extra-sportives. Et donc là,
Beaucoup extra-sportives.
Et là, il arrive dans cette équipe de Houston avec... C'est vraiment la pépinière de talent, des joueurs incroyables. D'ailleurs, moi, le joueur que j'ai vraiment envie de suivre, c'est Rich Shepard, leur rookie drafté
mauvais,
en troisième position.
Pour l'instant, oui, c'est ça. Il ne fait pas une bonne pré-saison. Hein.
It's pre-season. Just pre-season.
Mais... Là, c'est quand même mieux qu'il soit un peu meilleur, soit correct la pré-saison.
Oui, mais bon, c'est... t'attends vraiment saison régulière et puis pas forcément aussi les premiers matchs, mais c'est un meneur arrière shooter qui sort de Kentucky, vraiment intéressant, et il y a une petite hype aussi autour de ça, parce que ça reste le premier américain drafté dans l'ordre, hein, parce que Alex Starr et Zachary Risaché, mais au-delà tu rajoutes les Amen Thompson, Cam Whitmore, Jalen Green qui vient de prolonger, Jabari Smith, Alperen Sengun
qui a prolongé Tari Eason.
T'as presque, t'oublies presque, il y a Fred Van Vliet, l'arrosoir, hein, parce que lui il adore arroser, mais il fait aussi un meneur un peu passeur, et Dylan Brooks en chien de défense. Je trouve cet effectif, moi ça me hype vraiment, Houston. Okay.
Donc,
et en progression, je pense qu'ils vont plus progresser que les Spurs.
Deuxième saison, Dime Udoka, moi je suis d'accord, hein, j'avais choisi cette
équipe-là.
J'ai hésité entre les Grizzly et Houston, et Houston c'est celle qui...
Et c'est kiffant aussi.
C'est hyper kiffant.
Mais ils sont déjà un peu haut, tu vois.
Comme j'en reparlerai, et tout le monde sait aussi que le retour de Jamorant, ça tronque un petit peu la réalité, parce qu'ils n'étaient pas à leur place l'année dernière.
Et Bane était beaucoup blessé aussi.
Oui, en plus. Donc, moi, je pense que vraiment, cette équipe des Rockets peut être intéressante, parce que ça peut aller vite, ça peut aller fort. Et t'as Sengun, qui est un pivot incroyable,
un vrai joueur,
qui doit franchir encore un cap pour être encore meilleur. MIP la saison dernière, joueur fantastique que j'adore.
T'as pas choisi Houston, toi, Steve ?
Non, j'ai pris Phoenix. Ouais, ça peut être surprenant. L'année dernière, c'est 49 matchs gagnés dans une saison où les trois stars ont joué que 41 matchs ensemble. Ils n'avaient pas de meneur de jeu. C'est l'équipe qui perdait quasiment le plus de ballons dans la ligue. Je me dis qu'avoir recruté Tyus Jones, qui comme ça peut-être n'est pas un nom très ronflant, mais Tyus Jones, il y a deux ans, quand Memphis est tout en haut de la conférence Ouest, Tyus Jones, il fait partie de cet effectif-là. Il en fait bien partie. Il a été très bon. L'année dernière, il était à Washington dans une équipe de branquignoles. Dans une équipe de branquignoles, mais il a fait la maille. Donc Tyus Jones va starter au poste de meneur de jeu, ça va rééquilibrer les choses, et ils ont tout en magasin, bien sûr. Il y a toujours, mais ça tu peux le dire pour toutes les équipes, s'ils sont en bonne santé, si tu fais KD, Booker, Bradley Beal, Tyus Jones, Yusuf Nurkic, je vois pas pourquoi cette équipe là elle peut pas tutoyer les sommets de la conférence Ouest. Donc moi j'ai envie
c'est presque un des meilleurs 5 purs si tu prends juste le 5, parce que le problème c'est peut-être derrière avec ton banc, et parce que ce 5 il vampirise aussi tout ton salary cap, donc t'as du mal à te renforcer.
Et puis Mike Budenholzer qui arrive au manette. Mike Budenholzer, c'est champion NBA avec les Bucks, qui prend la suite de Frank Vogel. Donc je me dis attention à Phoenix.
Attention à Phoenix. Mais alors, est-ce qu'à l'inverse, vous avez des équipes où vous dites attention, ça va pas être si flamboyant que ça?
Les Clippers.
Les Lakers.
Les Clippers me font tellement peur. Fred, je trouve ça affreux. Tu avais le projet incroyable avec Paul George, Kawhi et James Harden. Paul George n'est plus là. Kawhi va pas commencer la saison, on sait pas combien de temps il va mettre pour revenir. Ça sent vraiment l'équipe bien pourrie, la saison bien pourrie, la saison difficile.
L'effet nouvelle salle, tu sais, à chaque fois que tu construis une nouvelle salle.
En plus, nouvelle salle, c'est jamais une très bonne nouvelle non plus par rapport à ça. Donc honnêtement, je m'inquiète beaucoup pour cette équipe. Carrément. Le projet, je sais pas où il est. T'as perdu ton projet, t'as Kawhi qui est une incertitude absolue. Alors effectivement, avec Kawhi, ça change tout. Hein. Je changerai mon avis, sauf que, encore une fois, tu sais pas ce qu'il va jouer. Où va le projet? Comment va le projet? Je plains presque Nico Batum.
Et moi, je rejoins Fred, pardon, j'avais mis les Clippers aussi. Ça a été mon équipe favorite les trois dernières saisons. À chaque fois, je disais, ils peuvent être champions de NBA. Ça y est, j'ai terminé. J'ai abandonné le projet des Clippers. Kawhi, pour moi, c'est terminé.
Ah, tu penses?
Oui, c'est terminé. Il a les genoux en vrac. Ah, là, il se refait mise au repos parce que ses genoux gonflent. Il y a des trucs dans le genou. Donc, pour moi, Kawhi Leonard, c'est terminé. Basta. On va retrouver la James Harden dépendance qui va être à 30 points de moyenne s'il est encore capable de le faire. Et c'est pas Terrence Mann, et c'est pas Norman Powell, c'est pas Zubac, c'est pas Nico, malheureusement, qui vont permettre à cette équipe des Clippers, dans une conférence Ouest très concurrentielle, de pouvoir exister. Donc, pour moi, le flop de la saison, ça va être les Clippers.
Et dans la même ville, les Lakers pour toi, Arnaud?
Ben oui, parce que entre, alors là, l'espèce de, vous en avez parlé, hein, on parle de Bronny James et tout, mais bon, tu arrives avec un coach totalement rookie, JJ Redick, qu'est-ce que ça peut donner? Et puis tu seras toujours aussi dépendant, même s'il a été beaucoup moins blessé et beaucoup plus fiable, Anthony Davis, parce que quand Anthony Davis est à 100%, c'est un joueur monstrueux et c'est un des meilleurs pivots de la ligue. À voir avec les saisons LeBron. T'as envie de pas douter parce que tu sais que l'hygiène de vie est irréprochable et que LeBron fera du LeBron.
Oui, mais un jour ou l'autre, ça va baisser.
Mais
quand
oui,
sinon il va jouer jusqu'à 70 ans. Sinon.
Il est quand même souvent day-to-day, donc est-ce qu'il va, je pense que moins de back-to-back, etc. Et puis est-ce que hein, Austin Reeves n'était pas en surperformance au titre? T'as D'Angelo Russell, ton poste 3, là, il démarre visiblement à Kachimura. Et puis
t'as Dalton Connect, baby.
Alors, tu regardes le deuxième 5, tu partirais sur Gabe Vincent, Max Christie, Del Toknecht. Moi, j'arrive pas à le dire.
Connect.
Connect.
Et Snoop Dogg, il a trouvé un surnom. Il a dit c'est West Side Connect.
Et Jared Vanderbilt à l'intérieur. Franchement, quand tu grattes un petit peu derrière le 5, qui n'est pas si mal que ça, mais ce n'est pas non plus waouh, bah, c'est un peu compliqué. Donc, moi, les Lakers,
après,
je suis
Anthony, Anthony Davis, quand même, comme facteur X, parce que là, il est très chaud. Et évidemment, s'il reste en forme une saison, ça peut quand même.
Tu peux aller en playoff avec deux joueurs. Tu peux aller en playoff avec deux joueurs. LeBron et Davis, ça peut suffire.
Alors, les Clippers n'ont pas
de joueurs. Avant de passer à l'Est, est-ce qu'il y a un petit joueur comme ça là, que vous avez envie de mettre en avant, que vous allez suivre particulièrement? Steve.
Moi, c'est Jamorant.
Bien sûr. Hein, le retour dernières. De Jamorant, neuf ça m'a kiffé, ça.
9 matchs joués entre suspension et blessure. Le dreadlocks monté sur ressort. On a vu qu'en pré-saison, il n'avait pas perdu son jus. Je m'attends à une énorme saison, celle un peu de la rédemption en termes d'attitude sur et hors terrain. On rappelle qu'il était 12e au vote de MVP la saison 2022-2023. Et puis, c'est un des... Il y en a beaucoup dans la ligue, mais c'est un des joueurs très excitants qui, quand tu te réveilles le matin, t'as envie de regarder les highlights de Jamorant parce que c'est quand même un phénomène athlétique pour un garçon de sa taille.
Il fait les trucs de ouf. Je suis d'accord avec ça. Un peu comme le baron.
Ah, oui, le baron.
C'est la résurgence du baron. Fred, quel joueur tu vas suivre,
ben
toi?
Moi, j'ai choisi un joueur qui va croiser, je pense, au milieu de terrain, Jamorant, qui va jouer avec lui, Zach Hiddé, qui
est un joueur pivot de pivot, Memphis, qui fait fantasmer aussi la franchise des Grizzlies.
Qui fait rêver un petit peu sur le papier. Hein, 2m24, drafté en 9e position, donc plutôt correct, très habile, mais surtout deux fois meilleur... universitaire avec Purdue, de suite. Donc c'est un joueur qui a beaucoup de talent, de haut panier. À l'heure des pivots qui courent, qui font des pick and roll, et à peu près, c'est à peu près tout. Là, on a un vrai pivot qui joue de haut panier.
Canadien. Oui.
Canadien. Ouais, Canadien. Capable de jouer de haut panier, capable de d'avoir des vrais moves. Sauf que, est-ce que ça va coïncider avec la NBA moderne? Moi, pour moi, c'est quelque chose de super intéressant. Mmh. Une vraie question, parce que... On ne voit plus des mecs comme lui, en fait. Des joueurs qui jouent
les Américains sont pas vernis en ce moment, hein, parce que les prospects les plus intéressants sont
ils ont Cooper Flag qui arrive.
Ouais,
comment tu dis?
Cooper Flag.
Cooper Flag.
C'est censé être
le mec qui n'a pas un nom de resta déjà.
Le monsieur drapeau.
Il a un vrai nom de resta, c'est vrai.
Zach Hiddé, c'est une bonne idée.
Bah, j'avais dit Rich Shepard.
Rich Shepard, bon, pour l'instant, il a du mal.
Après, il y a une équipe qu'on n'a pas évoquée. Alors, c'est vrai qu'elle n'a pas fait une énorme pré-saison, mais c'est Sacramento qui s'est renforcé avec.
Là, on est sur les joueurs, Arnaud.
DeMar DeRozan.
Que veux-tu nous dire par là?
Pourquoi? Après, on connaît Fox déjà, mais tu vois, je voulais dire un petit mot quand même de Sacramento, qui a un énorme Domantas Sabonis. On parle beaucoup de Jokic, mais Sabonis fait presque la même chose. Hein. Monsieur triple-double. Donc, pourquoi pas aller à Sacramento? Il y a Keon Ellis, qui est leur rookie, qui va démarrer. Le coach l'a dit, à la place de Malik Monk notamment, c'est le poste de shooting guard. Donc voilà, moi je sais que dans mes drafts fantasy, peut-être que...
Attention à l'accident d'hélicoptère pour
Ellis.
Donc moi j'ai...
Pas le prix de Monta Ellis. Hein.
Non. J'ai pris Keon Ellis dans mes derniers tours de draft, tu sais, je pense que beaucoup font la fantasy.
Je le note parce qu'il me manque un joueur pas cher, alors Keon Ellis.
Il est vraiment pas cher, après c'est du développement.
Il y en a à Houston aussi, hein. Dick là.
Non, il est à Toronto,
Toronto, excuse-moi.
Gradedic. Il est énorme.
Un jour, il jouera avec Anthony Black.
Il est énorme, Dick.
Gradedic, il y a des vrais jeux de mots à faire pour Stephen.
Mais tu sais qu'il y a une photo entre Anthony Black et Gradedic.
Je suis pas sûr que la NBA ait beaucoup aimé
maillots,
cette photo.
Ah non, ils n'ont pas aimé. Ils ont pris leur maillot, et donc voilà, Dick et Black d'un côté.
Allez, on passe à l'Est.
Non, pas la photo. I'm looking at every team in the NBA, and I dare somebody to tell me who can the Boston Celtics not beat. The best team in basketball all year. Stolen by Tatum. Tatum goes up and lays it up and in. Here's Brunson, 3 seconds for Towns, who slams it home. And Anobi, oh, beautiful feed. Towns the flush. Damian Lillard, there you go. Giannis full steam ahead. Count the bucket in the way that only Giannis can. Mitchell has his head up, takes Levert feet. Oh, my! Donovan Mitchell, an eye-popping flush. Paul George has signed a massive contract with the Philadelphia 76ers. Embiid, splash! Embiid gets right to work for the Sixers. Yabusele! Merci beaucoup, Brooklyn! Philadelphie, on va peut-être en dire un mot, ils vont démarrer avec la moitié de l'équipe à l'hôpital. Alors, pareil, votre favori à l'Est, Fred?
Oh, ça va l'arracher de le dire.
Boston.
Boston va de nouveau aller en finale NBA.
Non, ils sont favoris. Après, il faut faire attention. Comme tu l'as dit, les Sixers se sont tous blessés un petit peu, mais ils ont quand même une belle équipe sur le papier.
Très belle équipe.
T'as New York qui s'est renforcé aussi.
Fred, il dit Boston, mais il dit pas ça Boston, il parle des autres. Il a dit Boston. Attention aux Sixers, attention aux Knicks.
Oui, mais il faut faire attention parce que New York...
Qui va gagner la conférence S selon toi?
Boston,
bah vas-y, dis-nous pourquoi.
Parce que c'est une équipe qui, sur le papier, est énorme, qui n'a pas beaucoup changé pendant l'été. Porzingis va pas débuter, c'est une vraie question, savoir s'il sera autant en forme, en tous les cas, s'il participera autant que l'année dernière. C'est une équipe qui connaît le chemin pour gagner, c'est une équipe qui a du talent, avec Brown, par exemple, beaucoup de talent, et donc voilà quoi.
Très bien, il a pas envie d'en parler, mais il sait que c'est les meilleurs. Arnaud.
Boston, évidemment, ils avaient 14 victoires d'avance sur les Knicks deuxième l'année dernière. Il y a quand même une énorme marge entre eux et le reste de cette conférence Est. Tout le monde qui se bataille un petit peu pour ses places en play-off. Donc la continuité, une équipe qui ne bouge pas, toujours ces joueurs-là, Derek White, Jrue Holiday, Al Horford. T'as pas Porzingis, mais Al Horford, il te fait quand même toujours du bien aussi.
Oui, mais lui aussi,
à l'intérieur.
Il va commencer à baisser un petit peu à un moment, forcément.
Il va baisser un petit peu.
On parlait de LeBron tout à l'heure, je pense que
Fred a dit Boston. Il a dit Boston, il n'y en a pas un qui m'a parlé. J'ai pas entendu le nom de Jason Tatum encore. Vous voulez pas, c'est un mot interdit? C'est le jeu ni oui ni non?
Non, parce que c'est le collectif le plus fort. Et alors, oui, Tatum et Brown.
Je pense que Brown, Jalen Brown,
il a fait exprès. Il a dit Brown pour pas dire Tatum. On avait capté. Hein.
Oui, mais Arnaud l'a pas dit non plus.
Non, mais Arnaud, il s'en fout. Lui, il aime bien les Boston Celtics.
Oui, non, mais. Après, tu as raison sur ta remarque, ça ne nous est pas venu instinctivement parce que moi, je pense plus à Boston. Rouleau compresseur. Et évidemment,
après,
t'as sa star,
Jason Tatum,
mais
qui est... Tatum et Brown, quand même.
Hein. Bah, s'ils ne sont pas là...
Ce que vous voulez, mais ça reste quand même deux joueurs...
Même s'ils ont... S'il n'y a pas Tatum, ce n'est pas la même équipe.
Bah,
hein.
Merci quand même. Steve, un mot sur Boston. Et après, c'est peut-être ton favori aussi,
d'ailleurs. Non. Ah. Bah, un mot sur Boston. Alors, pour revenir sur Jason Tatum, alors, ça y est, il est champion NBA, mais mine de rien... Alors, je ne vais pas vous partir sur une guerre Brown-Tatum, mais mine de rien, de ne pas avoir été MVP des finales, pour lui, lui reste peut-être en travers de la gorge. Donc, à un moment donné, si... Alors, je suis d'accord que c'est le collectif, c'est l'association du binôme Brown-Tatum qui fait que Boston est très fort. Mais pour Jason Tatum, il y a peut-être un accomplissement personnel aussi à avoir. Et
surtout d'être... après des bons JO.
Exactement. Et non, mais c'est aussi... Ça
aussi a fait des bons JO. Partie...
C'était une demi-blague.
Oui, ça doit faire partie d'une preuve de fierté et d'ego, de dire, écoutez, moi, je suis un des meilleurs joueurs NBA, je veux prétendre au titre de MVP, je veux emmener Boston en finale NBA et je veux être MVP des finales, donc c'est aussi une saison importante pour lui.
Alors attention, parce que MVP de la saison, pour en dire un mot, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients, hein, parce que ça peut être pour Doncic qui va forcément vouloir une fois dans sa carrière être MVP. Shai, je pense que c'est peut-être même le favori numéro 1. On n'oublie pas quand même Jokic, qui va continuer de dérouler son jeu extraordinaire.
Et n'oubliez pas un garçon.
Il y a un vrai intérêt secondaire dans le MVP de la saison.
Non, n'oubliez pas un garçon qui fait partie de l'équipe qui, à mon sens, est très sous-estimée, dont on ne parle pas, c'est les Bucks. Yannis Antetokounmpo est pour moi encore des trois meilleurs joueurs.
C'est mon flop à l'Est.
Alors, avant de parler des joueurs, des individualités, tu nous as pas dit qui est ton favori à l'Est pour être champion.
Les Bucks.
C'est mon flop, c'est bien.
La deuxième saison, Lillard-Yannis. Non, mais toi d'abord, Steve.
Bah écoute, l'année dernière, c'est 49 victoires. Il y a eu une éviction d'Adrien Griffin qui, pour moi, a été une erreur monumentale parce qu'il était quand même à 30 victoires et 13 défaites sur les 43 premiers matchs et que l'arrivée de Doc Rivers a été insignifiante en termes d'impact. Il y a une élimination au premier tour contre Indiana où Yannis joue pas le moindre match et Damien Lillard dans loop 2. Je trouve qu'on oublie cette équipe parce que j'ai dit Yannis, pour moi, c'est top 3 NBA et que Damien Lillard, pour moi, c'est encore top 10 des gardes dans la ligue. Middleton, l'année dernière, a été très bon sur le premier tour des playoffs contre Indiana. Il s'est fait soigner les deux chevilles. Il va revenir en bonne santé. C'est une équipe qui se connaît, une même ossature. Et il y a une signature qui a été pour moi aussi un petit peu sous-marin, qui n'a pas fait beaucoup de bruit et qui est énorme, c'est Gary Trent Jr. qui a été signé au salaire minimum pour les Bucks. Gary Trent Jr., c'est 4 ans à Toronto, entre 15 et 18 points de moyenne. Énorme tireur à 3 points, énorme défenseur. C'est bien meilleur que Malik Beasley qu'ils ont mis à droite, qu'ils ont dégagé. Ils n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre financièrement d'avoir pris Trent pour un salaire minimum, d'avoir pris Delon Wright et d'avoir pris Torin Prince. Moi, je vois les Bucks gagner entre 53 et 55 matchs cette saison dans la conférence Est, et tant mieux pour eux parce que personne n'y pense aux Bucks, mais c'est pas devenu une équipe de peintres, hein, quand même, et Yannis peut emmener cette équipe tout en haut, à mon sens.
Et c'était le flop d'Arnaud.
Oui, moi je suis le matériel basket, on peut pas le nier, tu vois, sur ton argumentaire. Doc Rivers, quand même les mêmes réserves. Et...
Non, ça va les couilles de Doc Rivers. Gros. C'est, une ligue de, c'est une ligue de joueurs. On s'en branle de Doc Rivers.
Non, ah non, mais
c'est très bien.
Ah non, mais quand il cristallise des... Surtout, c'est tellement négatif ce qu'il dégage autour de lui. C'est pas... oui, c'est une ligue de joueurs. Mais il est...
Sur la saison
il ressent... Enfin... Tout le monde, on a quand même cet avis qu'il est cramé, Doc Rivers, qu'il n'a plus de mojo, qu'il n'a plus rien. Et moi, je trouve que...
C'est Jean-Louis Gasset, en fait.
Mais il a toujours été cramé, non?
Non, elle n'a pas toujours été cramée, mais... Et je trouve les ondes totalement négatives autour de cette équipe, avec les déclarations de Yanis en disant « Ah ouais, mais si on n'est pas champion, bah, c'est peut-être... je vais peut-être partir, il faudra peut-être me trader. » Quand j'entends ça, mais moi, pour moi, ça va être plus un manque d'alchimie entre ces joueurs-là qui expliquent...
La chimie, c'est quasiment la même équipe, Arnaud.
Oui, mais c'est... Non, mais ce la deuxième dire, saison, Lillard pas... Antetokounmpo, on a vu une première saison un peu moyenne, les absences un peu des uns des autres, Middleton...
Pour l'appuyer sur cette relation Yanis-Lillard, j'ai pas vu une
ça
seule progression pendant
oui, que l'année. Oui,
il n'y a pas eu de progression. Prendre un seul coup, il y en aurait une, en fait.
Et moi, le problème, c'est que Middleton, que je trouve un joueur formidable, je trouve beaucoup trop blessé, c'est lui qui, pour moi, apporte énormément de liant dans ce collectif. Et là, je vois qu'il repart un petit peu à l'infirmerie. Et voilà, tout ça fait que une demi-saison de Doc Rivers qui est quand même très moyenne. Certes, Yanis est exceptionnel. Lillard est encore un top meneur, même s'il arrose quand même toujours autant. Moi, je sens venir un truc pas bien pour les Bucks.
Et Fred, quelle franchise suscite un peu de scepticisme de ta part?
Ben moi, c'est Washington.
Ouais.
Washington, parce que sur le papier, franchement, c'est plutôt intéressant. Hein. T'as déjà les deux Français, Sarr et Koulibaly. Ouais,
Fred, il est arrivé à un âge, il lui met ses lunettes.
Je mets mes lunettes, je fais de pire en pire. Tu sais que l'âge, c'est difficile.
Notes.
En même temps...
tu es presbyte.
Oui, ça devient compliqué.
Et moi, je suis myope. Donc c'est...
Quand tu joues avec Poul, c'est toujours compliqué. Kuzma, Valanciunas, je ne comprends pas.
Alors,
tellement.
Poul, c'est vrai que Poul, c'est le joueur le plus décevant de ces dernières années. Là.
Déjà, lui, je ne le comprends pas. Kuzma, je ne sais pas ce qu'il va rester ou pas, on ne sait pas trop. Valanciunas, je ne sais pas ce qu'il est venu faire dans cette galère. Bogdan, moi, c'est un joueur que j'adore, mais qui s'est un peu perdu avant d'arriver là, donc je ne sais pas trop. Sadiq Bey, j'ai l'impression qu'on a cumulé quelques joueurs qui sont plutôt bons sur le papier, mais ensemble, je ne suis pas sûr que ça donne grand-chose. Et il faut absolument que Koulibaly sorte la tête de l'eau,
en même temps,
soit bon, parce que sinon il va finir par être catalogué.
Quand tu joues avec Poul, tu ne peux pas la sortir.
mais concrètement, le problème de Koulibaly, c'est que si cette saison il ne met pas de points, il va être catalogué défenseur uniquement. Ça sera un Frank Ntilikina. Et attention à ce genre d'étiquette sur lui. On a vu qu'Alex Sarr, c'était un petit peu compliqué, même si défensivement il peut apporter à cette équipe. Moi, honnêtement, cette équipe m'inquiète un peu.
Et okay. C'est toujours compliqué de confirmer. Enfin, c'est compliqué. Tu as fait une très belle impression sur ta saison rookie. Et bien, allez, sur ta saison sophomore.
Passer un deuxième
cap. Allez, passer un cap.
Et son cap,
même
il est
confirmé.
Offensif.
Surtout que lui, c'est offensivement et c'est pas le plus facile.
Offensivement et c'est pas le plus facile. Exactement.
Quelques blessures au poignet notamment. Donc,
Steve,
ça va,
une franchise qui te laisse des doutes?
Les Bulls.
Ah, les Bulls. Alors, les Bulls en reconstruction totale.
Oui, mais il leur reste quand même deux énormes joueurs que sont Zach Lavine et Nicolas Vucevic. Et pour moi, ils vont tout faire péter. Ils vont tout faire péter. Lavine, il a encore 2 ans de contrat, plus une player option à 48 millions. Vucevic, il lui reste une saison de contrat. C'est une équipe qui n'a pas d'âme, qui a récupéré Josh Giddey, qui va faire des chiffres et qui va frôler le triple-double. Le retour de Lonzo Ball, qui est peut-être la seule curiosité. Mais bon, ça fait 2 ans sans jouer. Voilà. Je sens le tanking de l'espace pour les Bulls pour récupérer Cooper Flagg, pour repartir sur quelque chose de nouveau. L'année dernière, ils ont gagné 39 matchs. Je suis pas sûr que ça fasse bien mieux.
Oui. Surtout que la vigne mal lunée, ça peut être catastrophique. S'il n'a pas envie d'être là, s'il est dans une
instance de départ. C'est 47 millions quand même.
Soit, oui, mais je ne dis pas le contraire. Mais un mec comme ça qui est sur une fin de parcours, ça peut être catastrophique pour une saison.
C'est pour ça que je te dis qu'il va y avoir un virage à prendre pour Karni Chovas, qui est le directeur des opérations basket. La vigne est dans trop de rumeurs. Exactement. Le problème, c'est qu'il est dans trop de rumeurs de trade depuis un an maintenant. Il peut pas rester à Chicago.
Avant les joueurs, juste, on n'a pas dit un mot de New York.
On n'a pas dit les équipes surprises aussi.
Équipe surprise, vas-y.
Orlando. Ouais. L'année dernière était déjà une équipe surprise de la conférence.
Avec des
Est.
Bons petits joueurs que t'aimes bien. Hein,
exactement.
Les Wagner, les Banquero.
Wagner, Paolo Banquero. Jalen Suggs qui a été prolongé là récemment. Franz Wagner, il a été prolongé. Ils ont mis le jackpot et le pactole sur lui. Deuxième meilleure défense de la ligue. une seule nouveauté, c'est l'arrivée de KCP en provenance de Denver, quand on sait que c'est un des effectifs les plus jeunes de la ligue. Ramener tonton Caldwell Pope dans une équipe, c'est toujours bon. Wendell Carter Jr. qui a joué peu de matchs, qui a loupé 30 matchs la saison dernière et qui, j'espère, va faire une saison complète. Donc moi, je vois encore une progression de la part d'Orlando pour être éventuellement dans le top 4 à l'Est.
Arnaud,
j'hésite avec Orlando et j'ai pris un peu le même pari. C'est pas non plus trop une surprise, mais c'est Cleveland. Je vois encore Cleveland continuer à monter en puissance avec Garland, avec Mitchell, avec Mobley, avec Jarrett Allen. Franchement, c'est aussi un super 5. Peut-être à régler un peu sur leur poste 3. Ils ont Okoro. Bon, après, quand t'as ces 4 joueurs devant, hein, t'es quand même la 5e roue.
Je t'annonce un scoop. Darius Garland va être tradé.
Ah bon ?
Ouais.
Comment tu sais ? T'as des infos ? Bah, donne les infos. On est un podcast de spécialistes. Faut donner les infos.
J'ai discuté avec un personnage principal.
Du staff de Cleveland.
Un acteur principal de Cleveland. Il y en a deux.
Il y en a deux.
Mais bon, c'est un des deux quand même.
C'est un qui est un peu mieux placé que l'autre et qui m'a dit que Darius Garland, ça le fait pas.
Après, si tu trades Garland, tu récupères quelque chose de bien en face.
Oui,
hein.
Oui, je pense.
C'est une belle valeur.
Donc, Garland tradé vers Noël.
Oui, normalement. Mais donc il va falloir quoi, récupérer un meneur.
La Garland de Noël. Ah, c'était ça. Oui,
c'était ça. La
vraie. Ah, merde, je croyais que c'était une vraie info.
Donc contre qui on sait pas.
Non,
et vers où, on ne sait pas non plus.
Non, bah, ouais.
Je sais pas, moi, du coup, un move comme ça, c'est important.
Je pense que c'est dans les coulisses, le départ de Darius.
Et Fred ?
Ah, mais moi, j'ai voulu rêver. Oui. J'ai voulu choisir les Charlotte Hornets.
Ah, les Charlotte Hornets. Ah,
ouais. Parce que LaMelo Ball revient, Miles Bridges, c'est quand même un très bon joueur. On peut penser ce qu'on veut du personnage, mais lui, c'est un très bon joueur. Brandon Miller va encore être meilleur. T'as Michis, t'as Josh Green, t'as Grant Williams, t'as Salin qui arrive et qui va apporter des choses. Alors, je sais pas, je pense pas que ça puisse faire les playoffs. J'espère que ça sera dans le top 10, mais en tout cas, on va prendre du plaisir.
Tu penses que c'est la solution, Salin?
C'est ça. C'est bon.
Tu sais que Salah, il a pris 7 tirs à 3 points en moyenne en pré-saison par match.
C'est énorme.
Bah, c'est bien.
Dès qu'il avait le ballon, il envoyait.
C'est ce qu'il faut faire, non,
ouais,
pour la NBA.
Il n'a pas peur.
Oui, mais ça, c'est hyper important, oui. Évidemment. No, donc, ouais, cette équipe, je pense qu'elle va m'enthousiasmer. J'aurais envie de la voir, j'ai envie de voir l'évolution et ça peut être hyper sympa à regarder.
J'y reviens, personne n'a parlé de New York. Est-ce qu'on considère New York parmi les favoris à l'Est ?
Moi, j'ai trois favoris à l'Est.
Est-ce que New York peut aller en finale ? On a fait un épisode entier sur New York, mais c'est pas loin maintenant qu'on y est là.
Moi, j'ai du mal. J'ai du mal avec Carl Anthony Towns. Hartenstein, je pense que ça te fait beaucoup de mal de le perdre. DiVincenzo aussi. Je suis un peu déçu de les avoir perdus, parce que finalement, tu te disais que ça pouvait être une équipe qui pouvait être super sympa. Carl Anthony Towns, je ne suis pas,
un fan.
Moi, après, je suis pas le plus grand fan.
Ils ont Mitchell Robinson qui est out de 3 mois.
Ouais, mais qui est out souvent.
Qui est out souvent, mais qui est quand même un joueur important dans cette équipe, parce que le pivot défensif.
Ils ont pété Precious Achiuwa aussi pour le début de saison.
Jalen Brunson va pas pouvoir faire tout seul.
Non.
Mais moi, je suis quand même hypé, évidemment, par ces Knicks, par ce move, parce que c'est New York. Mais la pression aussi, tu as fait une très belle saison l'année dernière. Quand on sait comment ça se passe à New York, ça peut vite aussi partir en éclat.
Moi, je me pose des questions sur la balance offensive de cette équipe-là, qui, mine de rien, était très bien hiérarchisé la saison dernière, puisque c'était Jalen Brunson et puis DiVincenzo en bout de chaîne, Julius Randle quand il était là. Qu'est-ce qui va se passer ? Jalen Brunson va continuer à avoir les rênes de cette équipe-là, mais Carl Anthony Towns n'est pas un joueur lambda. N'est pas un joueur lambda offensivement.
C'est pas forcément.
Michael Bridges n'est pas un joueur lambda offensivement.
Mais aussi. Hein.
Je suis d'accord avec toi. Je suis content de se décaler à deuxième ou troisième motion.
Tu vois, c'est pas non plus insoluble. Si ça arrive, des franchises où il y a plusieurs croqueurs, parfois ça peut marcher quand même, non ?
Le problème, c'est que si c'est l'un joue son ISO l'un après l'autre, bon.
Quel joueur faut suivre, Fred ?
Eh bien, justement, Michael Bridges.
Michael Bridges,
on a vu qu'en option numéro... Non, oui, alors déjà, oui, mais c'est surtout qu'en option numéro...
Michael Bridges à Jason Tatum.
Oui.
Si tu construis une franchise, il te coûte la même chose, tu prends lequel ?
Non, mais arrêtez de me poser ce genre de questions.
Dis-moi, je sais pas, ça m'intéresse.
Alors, par plaisir personnel ou parce que je pense que j'ai
gagné ? DGM,
dirigeant, pour
gagner. Je pense que je prends Tatum.
Il a réussi à le dire.
Mais je réfléchis.
Il fait passer 3 entretiens.
Michael Bridges, ok.
Michael Bridges, parce que c'était l'option numéro 1 au Nets et on a vu que c'était pas vraiment son truc. Par contre, il a des capacités à être option numéro 2, numéro 3. Il a pas de prétention par rapport à ça. Je pense qu'il va apporter énormément à New York parce que justement, on a besoin de scorer aussi du côté de New York. On a perdu DiVincenzo. Je pense qu'on gagne ou change à New York avec lui parce que en plus, il peut défendre lui aussi très dur. Il est très long. Je pense qu'il va faire une très bonne saison à New York et si New York va très loin, il sera celui qu'il faudra surveiller.
Arnaud ?
Je vais prendre un pari, ça va évidemment vous surprendre, parce que c'est une franchise, on n'en parlera peut-être pas beaucoup aujourd'hui, c'est les Brooklyn Nets. Noah Clowney.
Oh là là,
c'est fils de George.
Noah Clowney. 20 ans, c'est un poste 4.
Jamais entendu parler.
Et
après, je fais charpiller l'espoir de l'OLB, il y a Hardaway.
Non, mais c'est un joueur. Noah Clowney, poste 4, qui a seulement 20 ans et qui montre de bonnes choses.
Mais
de bonnes choses en Non, c'est sa deuxième saison, okay. Qui a été drafté, je l'avais sous les yeux, en 2023, 20e position. Et moi, je le vois bien starter et nous faire une petite saison en belle progression avec... allez, pourquoi pas 15 points si rebond dans cette équipe de Brooklyn où tu vas voir Cam Thomas qui va artiller, tu as Jordi Fernandez qui est le coach du Canada qui coach Brooklyn, où je sais pas à quoi
mais
va ressembler
coach,
cette équipe.
Parce que je pensais qu'il était coach avant les derniers JO, mais depuis je suis pas sûr.
Dennis Schroeder à la main, ça va être une équipe un peu bizarre. Je pense qu'ils vont
ben
peut-être se battre avec Washington. Ah oui, Ben Simmons, oui, on l'a oublié aussi, oui. Celui-là. Bon, je les vois ça, pas, je les vois se battre avec Washington, peut-être être un peu meilleur que Washington quand même. Mais voilà, pourquoi pas cette révélation, ce Noah Clowney.
Okay, Noah Clowney, je peux te dire que c'est là. Hein. Ah. Toute l'année, Arnaud.
On sait jamais, attends.
Fais gaffe parce qu'il a eu
la chance de sourire aux audacieux.
Très bien.
Noah Clowney.
Et toi, Steve ?
Écoute, moi, j'ai choisi une franchise dont tout le monde se moque.
Détroit.
Voilà, exactement. Je vais parler de Kate Cunningham.
Ah, bah, très fort.
Je vais parler de Kate Cunningham, qui est l'attraction de Détroit, une franchise qui est moribonde, qui va encore tutoyer les bas-fonds de la conférence Est. Le seul vrai grand joueur de basket de la franchise, un garçon qui était à 23 points, 4 rebonds, 8 passes la saison dernière. Il vient de prolonger 5 ans pour 226 millions. Il va devoir se démultiplier pour faire progresser cette équipe. Record à 43 points, je pense qu'il va faire péter un match à 50. Kate Cunningham, qui est un beau joueur de basket. Et dans une franchise pourrie, pour jeter un petit focus de temps en temps au meilleur joueur de la franchise, ça
je
fait pas de mal.
Je te trouve dur avec les Pistons parce qu'elle est en reconstruction, mais tu rajoutes Jaden Ivey,
ça fait 10 ans.
Jalen Duren, tous ces jeunes-là, l'autre frère Thompson. Moi, je trouve que tu as une petite base qu'il faut renforcer, mais c'est pas si dégueulasse que ça.
C'est ici qu'a foiré en fait.
Ça ressemble un peu à ça.
Hein, c'est ça.
Je trouve que c'est bien.
Avec Kate Cunningham qui est Shai Gilgeous-Alexander.
C'est moins fort.
Quand même. Pour le moment, oui. C'est plus jeune.
Pour le moment. Allez, on va passer au débat préféré de Frédéric Weiss dans Basket Time.
To the Boston Celtics, congratulations, an NBA record, 18 championships. Bill Russell would be so proud.
Sees the NBA championship struggle between the Minneapolis Lakers and the Boston Celtics.
The NBA's most fabled rivalry was born in 1959.
The Boston Celtics are world champions.
I hated green for a long time. I wouldn't wear anything green.
It just got to the point where it was so frustrating.
Drives on Russell. Can't get it up, and Russell takes it away. Boston Celtics have done it again.
We were not going to lose to them damn Lakers. We had no respect for them. None. Zero.
The Lakers are winning it. 3 in 6 years. L.A. comes to Boston and wins the world title. The Boston Celtics are the NBA world champions.
2008, the Celtics beat the Lakers for their 17th NBA title.
The Lakers repeat back-to-back titles. The LA Lakers, the 2010 NBA champions.
East Coast versus West Coast. Russell, Chamberlain, Showtime versus the Big Three. Bird and Magic. The new Big Three versus Kobe.
The Boston Celtics and the Los Angeles Lakers.
Et oui, Bill Russell serait fier. Les Boston Celtics vont recevoir leur 18e bague. C'est la nuit prochaine, hein, pour l'ouverture de la saison. Alors évidemment, ça change peut-être un peu ce débat interminable. Quelle est la plus grande franchise de la NBA, les Boston Celtics ou les Los Angeles Lakers, puisque désormais, il y a un titre d'avance au classement pour Boston, même si je vais donner tout de suite un premier argument à Fred. C'est peut-être le premier à 20 qui marquera plus les esprits que
comme
davantage là.
Comme les grands chelems au tennis.
Oui, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, ça compte. Hein, ça compte. Surtout que personne n'ira à 25, a priori. On espère, Inch'Allah, Steve. Alors, on reste sur la NBA. Quelle est la plus grande franchise ? Les Lakers ou les Celtics ? Je ne sais pas si je lance Fred d'entrée de jeu. Je ne sais pas, parce que j'ai peur qu'il me saute à la gorge, Fred.
Non, mais pas du tout. Je suis très calme. Il n'y a pas de problème.
C'est très calme parce que tu es sûr de toi.
Bah, évidemment, il n'y a pas de doute. Tout le monde sait que c'est les Lakers.
Tout le monde sait que c'est les Lakers, sauf peut-être ceux qui pensent que c'est Boston.
Oui, mais tout le monde peut se tromper. Hein. C'est normal, ça.
Quels sont tes arguments ?
Mes arguments, bah, tout simplement. Alors, tu sais, j'ai vu qu'effectivement, Boston avait 18 titres. D'accord ? Je trouve ça vraiment fantastique. Sauf que la plupart de leurs titres,
comme il est
c'est
ironique.
De 57 à 76. Aucun de nous, à part toi, en 76, n'était né. Donc je me suis dit, je vais prendre la valeur où le basket était un peu plus populaire, où le basket était ce qu'on appelle du basket moderne des années 80. Comme ça,
d'accord.
On est 3 sur 4 ici à être nés en 80 ou avant.
Donc,
Stephen, toi et moi.
Donc Will Chamberlain, donc, Bill Russell, tout ça, ça va pas compter.
Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler des titres, là. Donc, j'ai compté les titres à partir des années 80, parce que c'est là que c'est intéressant. Avant, ça jouait en noir et blanc.
C'est là que c'est intéressant, parce que c'est un critère qui te convient.
Non, c'est un critère, parce qu'on est dans le basket moderne, on l'a vu, on est contemporain de cette période. Arnaud, qui en plus est le plus jeune, va me parler des années 60, qui connaît parfaitement.
Alors, à ce moment-là, si t'es vraiment honnête, tu comptes à partir des années 90. C'est-à-dire la période où la NBA est sortie des États-Unis.
Ça marche. Pas de problème. Ça marche aussi. Okay.
Oui, mais au moins, c'est plus honnête.
Quand on va partir des années 90, donc on a, dans les années 90, un titre en 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 et 2020. Ça fait combien ?
Je sais pas, 6 ou 7. Ouais.
Ça fait 6. De l'autre côté, on a 2008 et 2024. On a deux.
C'est pas
donc,
mal.
Donc, dans l'ère moderne, on a une équipe qui a gagné 3 fois plus que l'autre. Donc, qu'est-ce que tu veux dire déjà ? Ensuite, quand tu parles des maillots retirés, Kobe Bryant, Will Chamberlain, Magic Johnson, Abdul-Jabbar, Shaq, James Worthy. Attends, j'ai pas fini. On va parler des anciens. Ok, pas de problème. George Mikan. Tu sais, le Mikan Drill, ce que les mecs font encore maintenant. Jerry West. Tu sais, le logo de la NBA. Mais ça, c'est les Lakers. Ça, c'est une équipe qui est mémorable. Tout le monde se souvient de ses joueurs. Tout le monde se souvient de ses coachs aussi. Jerry West, Pat Riley, Phil Jackson. Voilà.
On se souvient de Larry Bird.
On se souvient de Larry Bird, Bill Russell et.
Bon, je sais pas,
Kevin McHale, Paul Pierce, Garnett.
Ça, c'est les ultra spécialistes. Je te parle des gens qui connaissent peu le basket. Je te parle de.
Oui, mais les gens qui connaissent peu le basket, je suis désolé, ne connaissent même pas Jerry West.
Si, parce qu'ils voient le logo tout le temps.
Mais c'est lui.
Le logo, c'est une histoire. C'est plein de choses. Ensuite, parlons un petit peu des gens célèbres qui regardent. La NBA.
Ah.
Alors, je sais pas.
Tu vas aller sur ce terrain-là,
J'ai même pas une liste tellement elle est exhaustive. Je ne peux pas m'arrêter. En fait, il y a tellement de superstars qui sont fans des Lakers que je ne peux même pas la citer. Il y a tellement de noms.
Mais ça, c'est artificiel.
Hollywood est à Los Angeles, c'est pas Boston.
Ensuite, autre argument. On parle de basket.
Oui.
Qui est-ce qui a créé une mode, un style ? Les Lakers, le Showtime. Showtime qui est devenu d'ailleurs une série sur Netflix, parce que c'est quelque chose qui était incroyable, fantastique, nouveau, le basket moderne. On parle pas de soutiers, là, on s'ennuie quand on les regarde. Merci.
Arnaud, t'es d'accord ?
Sur la culture, tu verrais tous les films sur les Irlandais aux États-Unis, c'est-à-dire les Celtics ont marqué.
Gangs of New York, c'est Boston, hein. Avec DiCaprio, Pierrot.
Non, mais en fait, à travers les propos de Fred, c'est aussi deux visions qui s'opposent entre les Lakers, la côte ouest, la Californie, le show, Hollywood, et l'est un peu plus rugueux, les Pilgrim Fathers, un peu toute cette histoire, et c'est vraiment deux visions qui s'opposent. Je trouve que...
T'as vu, il est obligé de modérer parce qu'il sait que j'ai raison.
Les Lakers font plus rêver, globalement, voilà. Je trouve. Parce que c'est ce qu'a dit, c'est cet environnement total, l'histoire du Showtime, Kobe, là t'as LeBron aujourd'hui, les stars, tout ce mélange Hollywood. Mais que tu as à Boston, je trouve
l'authenticité.
Une flamme un peu plus. Je sais pas si c'est authenticité,
si,
mais
c'est ça le truc, c'est
le parquet
préféré à Boston, c'est le homard, c'est super authentique. Hein.
Le parquet en chaîne, tu sais, un peu.
C'est ça
le parquet sombre, le côté historique, ce poids aussi de l'histoire. Je trouve que c'est deux choses qui se différencient. Après, les 18 titres des Celtics, on pourrait dire que les Lakers, Los Angeles, c'est que 12, hein, parce qu'il y avait Minneapolis, quand même une franchise qui a déménagé dans l'histoire. Au moins, à Boston, il y a une cohérence.
Moi, je parle à partir des années 90.
Oui, parce que la ville n'existait pas avant.
Excuse-moi, c'est Pierre qui a
parlé.
C'est le juge arbitre qui a décrété que j'ai 90.
Tu sais, il n'y avait même pas d'arceau avant au basket, avant les années 90.
Et je te dis que si tu veux une époque moderne, ce n'est pas les années 80.
Donc, c'est toi qui a été le juge arbitre et qui a décrété que 90 était une bonne année.
Oui, mais si tu veux, tu as pris ce critère-là. Et puis lui, Arnaud, il t'en prend un autre, c'est qu'avant, ils étaient à Minneapolis. Et c'est aussi.
À partir de 90, ils étaient à Los Angeles.
C'était moins flashy à Minneapolis, quand même.
Au-delà de cette histoire 90, c'est ta faculté à gagner selon les années. Et là, tu es plutôt sur un match. Les Lakers ont gagné fin des années 2010. Boston en a gagné un. Les Lakers en avaient gagné deux. Là, Lakers 2020. Boston, c'est cette faculté à gagner régulièrement qui est finalement peut-être le critère le plus important, parce que là, au niveau du nombre, on parle de deux franchises totalement mythiques.
Alors, comment tu te places dans ce débat, Steve ?
Je me suis régalé, en tout cas. Mais écoute, les deux ont été très bons dans leur plaidoyer. Maintenant, moi, Boston, ça a eu zéro impact dans ma vie, en fait. J'ai vu deux titres de Boston en 2008 et 2024. Donc, je vais pencher pour les Lakers par défaut, parce que j'ai vu plus de titres avec Shaq, Kobe, Pau Gasol, et même la fin de l'ère Magic Johnson 87-88, où j'ai 7-8 ans. Voilà, donc je vais pencher pour Fred et pour les Lakers. Maintenant, si vous me demandez mon avis, une franchise qui a marqué mon époque, que j'ai vue, c'est
Chicago
les Bulls.
Alors là, j'allais le dire avec six titres.
Parce que si je dois
choisir. Est-ce que c'est pas la plus grande franchise de la NBA?
Si je dois choisir une franchise, alors bien sûr qu'il y a moins de titres. Il y en a que 6 par rapport aux 18 et 17.
C'est tellement mythique et tellement iconique.
Mais t'enlèves Michael Jordan, c'est rien cette franchise.
Michael Jordan, c'est tout.
Oui.
Ça, c'est pas
Michael Jordan, c'est le basket.
Mais moi, j'ai entre 11 et 18 ans. Je vis NBA. Je vois deux threepeats quasiment d'affilée avec Jordan en direct. Parce que là, tu te lèves la nuit. Je rappelle que deux threepeats, ça n'a jamais été fait dans l'ère moderne, puisque
mais c'est important d'avoir l'ère moderne.
C'est important. Moi, ça restera les Bulls. Alors, c'est pas comparable à ces deux franchises-là qu'ont défendu Fred et Arnaud. Mais moi, pour un garçon de 44 ans, né en 80, les Bulls, c'est tout en haut.
Et
c'est
parce que c'est tout en haut. Parce qu'il y a une vision américaine fait l'opposition Boston Lakers, qui pour moi est réellement et sans ironie, Fred, une opposition authenticité, show-off. Et qui est sans pencher pour l'un ou pour l'autre, hein. Et une vision internationale où je pense que les Chicago Bulls, c'est peut-être la franchise la plus iconique, en fait, en fin de compte. Hein.
Je pense, oui.
Parce que le passage Michael Jordan a tellement marqué les esprits.
Il a bouleversé, Jordan a bouleversé la planète basket.
Je pense que c'est générationnel, en fait, parce que pour les jeunes, ça sera peut-être Golden State. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est hyper générationnel.
C'est pas aussi fort.
Il a raison de citer Golden State. Il a raison de citer Golden State.
C'était très fort quand même ce qu'on fait les
Warriors. Le problème des Warriors, c'est qu'il n'y a pas les three-peat.
Ouais, c'est ça. Ça a un impact énorme.
Mais pour la mondialisation du basket, je ne suis pas sûr que Magic Johnson, je vais pas faire offense à Magic et Larry Bird, c'est quand même un degré inférieur à ce qu'a fait les Bulls de Michael Jordan.
Même Kobe. Hein.
Oui, aussi.
Dernière chose, est-ce que finalement, quand on ne peut pas trancher dans un débat comme ça, c'est pas le palmarès qui fait la différence? Est-ce qu'au final, quand tu as deux franchises qui ont deux histoires différentes, deux cultures différentes...
Tu vois, j'ai l'impression que les Boston, c'est Novak Djokovic, les Lakers, c'est Rafael Nadal, et les Bulls, c'est Roger Federer.
Non, Nadal, ça marche pas avec les Lakers. Ça. Non. C'est presque même Nadal-Boston. Hein.
Oui, mais c'était pour le placement.
Je trouve Djokovic-Boston, ça collait bien. Hein.
Bon, donc, c'est bon, Fred, tu reconnais?
Oui, qu'on est les meilleurs, mais évidemment.
Si jamais ça fait 19 là, qui gagne encore, Boston.
Alors, juste un truc, on a quand même la NBA Cup, la première de l'histoire aussi qu'on a gagnée.
Mais je pense que tu fais un sondage.
Ça fait l'oublier celle-là.
Je pense que si on fait un sondage sur le compte de Basket Time, Lakers ou Celtics, je pense que c'est les Lakers qui gagnent.
Faisons-le.
Je pense que ça touche plus les gens.
Donc Fred, tu m'as pas répondu si Boston fait le back-to-back là, donc ça fait 19-17. Est-ce que ça change un peu dans ton esprit ou pas?
Moi, je pense.
Encore une fois, réellement, soyons objectifs. Est-ce que tu penses qu'il y a autant de joueurs majeurs et impactants du côté de Boston que du côté de
Je vais te dire, Fred.
Vraiment.
Fred,
là, dans l'effectif actuel?
Non, je te parle.
Non. Les Lakers sont plus de les joueurs de légendaires que
la première qui arrive à 20.
Les joueurs font partie aussi de cette légende. De quoi?
La première qui arrive à 20 aura marqué les esprits. Ça va être un truc de dingue. Ils savent faire, les Américains.
Ça sera pas les Lakers tout de suite, en tout cas.
Dans deux ans, c'est bien ça le danger.
C'est ça le danger. On finit avec le quiz.
Le sport co permet de côtoyer des gens avec des caractères totalement différents. Et ce qui est bien, c'est de cet assemblage de caractères forme une équipe.
Voilà, écoute, ça faisait 6 mois que j'avais pas joué au basket. Voilà, c'est comme le vélo, j'ai l'impression. C'est vraiment très facile.
C'est quoi les stats?
10 minutes, j'ai pas joué beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de rotation. Ouais. 18 points, 3 sur 5 à 3 points, 7 rebonds. Deux interceptions, c'est mon career high, 27 d'évaluation. Ouais, c'est propre.
J'ai la chance de travailler dans la plus belle radio de sport qui existe, qui est RMC.
RMC Basket Time.
C'est bien d'innover, les gars, sur les jingles. Bravo,
gueule, quoi.
Bravo. Excellent. Je sais pas qui a eu cette idée, mais c'est très fort. C'est vrai que c'est un peu le goat du quiz, même si, attention, il est vraiment contesté ces derniers temps, Fred, à une sorte de retour de feu, retour de flamme. Arnaud, on l'a pas vu.
Je suis en développement. Oui, je reviens, mais...
On t'a envoyé en Ligue de développement. On va voir s'il a progressé.
Il fallait en Europe, hein, Arnaud, faut arrêter.
Ah, peut-être.
Allez, première question. Quelles sont les deux franchises qui ont participé aux playoffs lors des 8 dernières saisons?
Ce sont les Bucks et ce sont les
Clippers.
Ce sont les Bucks. Bucks, j'ai un point, c'est sûr, et c'est les Celtics, ouais.
Alors c'est ça, c'est Bucks et Boston. Du coup, un point chacun, un demi-point chacun. Allez, hop. un demi. Je note un petit demi. Qui peut faire la diff à la fin.
Je gagne un demi-point, il reste à Boston.
Alors, on va voir si vous êtes vraiment prêt pour la saison. Je vous donne un rookie, vous me dites dans quelle franchise il joue.
Salopio.
Non, pas tant que ça. Pas tant que ça.
Je te rappelle que Clooney, il n'est pas rookie. Hein. C'est sa deuxième saison. Hein,
nous Brooklyn. Allons démarrer avec Donovan Klingan.
Donovan Klingan, Sacramento.
Portland, bravo.
Ah, je crois que c'est tous ensemble. Je crois que c'était
tous ensemble, tous ensemble.
Oui, Portland,
tous ensemble,
oui.
Tous ensemble, bravo Arnaud.
Arnaud, t'es bourré ou quoi?
Je crois que c'était tous ensemble. Oui.
Un match ensemble. De pré-saison à 14 points, 20 rebonds, 4 contre Utah. Donovan Klingan, ok. On enchaîne avec Rob Dillingham.
Minnesota.
Arnaud, il est là sur les rookies. Et troisième nom que je vous propose. Ça va aller vite. Stephen Castle.
San Antonio,
c'est pour Stephen. Quel est, là aussi on est dans les projections de la saison, parce qu'on imagine Victor Wembanyama capable de le faire. Quel est le dernier joueur à avoir réussi un quadruple double en NBA?
David Robinson.
C'est David Robinson en 94, 34 points, 10 rebonds, 10 passes, 10 contre face aux Detroit Pistons. Ça va vite pour Stephen. Citez-moi un des trois autres joueurs de l'histoire à avoir réussi cet exploit.
Oscar Robertson.
Non.
Abdul-Jabbar.
Il y a de l'idée. Comment t'as dit?
Olajuwon
l'a fait, absolument. C'était juste avant, quelques années avant, Robinson. Et ce n'est pas Oscar Robertson, c'est Alvin Robertson, l'arrière des Spurs, ouais, qui est le seul à l'avoir fait avec 10 interceptions. Puisque l'autre, le premier de l'histoire, c'était Nate Thurmond, pivot des Warriors.
Nate Thurmond.
Donc c'est Fred qui a la bonne réponse.
Oui, tout à fait.
Avec Hakeem Olajuwon, en même temps, une réponse sur Hakeem, c'est pour Fred, ça. Hakeem.
Avec un H.
Ouais.
Le fils du forgeron.
Je vous passais un extrait sonore, une interview récente. Vous allez deviner qui parle. C'est pas facile.
I respect Zach as a player, of course.
He's a great
player. He just doesn't want to see me like that. I'm just gonna keep it real, like with everybody. He doesn't want to see me, and I'm gonna stand on that. The offer still stands for sure, and I'm waiting on a response.
Sarah,
je respecte Zach.
Je sais qui c'est.
Shepard.
C'est Stephen Castle.
Non.
Ah, c'est Budzelis de Chicago.
Budzelis de Chicago qui ne comprend pas pourquoi il n'a pas été numéro 1 de la draft. Bravo, Steve. Le rookie de Chicago qui a un grand wawa. Hein. Attention.
Oui.
On va le suivre, celui-là.
Un bon lituanien.
Les scores, ça fait 3,5 pour Steve, 2 pour Arnaud, 1,5 pour Fred. Et ah tiens, on va réviser aussi nos salles, nos enceintes. Je vous donne une franchise. Vous me donnez le nom de la salle dans laquelle elle joue. C'est parti, Philadelphie.
Wells Fargo Center.
Non, c'est Wells Fargo Center.
C'est encore ça. Ouais.
Minnesota.
Target Center.
Target Center.
Je crois que c'est Steve en premier, non?
Moi, j'ai dit Target, je me suis
arrêté. Ah, mais j'ai dit Center.
Ok, c'est pour Arnaud. Et les Houston Rockets.
FedEx.
Mortgage Field House.
Non.
Ouais, c'est FedEx, non? C'est un truc.
Non.
Houston. On a un problème.
Il y a un problème. Hasard. Alors c'est pas un nom de fusée, mais c'est quand même un véhicule.
Space.
Pas Mercedes.
Ah, pas Mercedes.
Renault Mégane.
Audi.
Toyota.
Non, Toyota Center.
Ah ouais.
Oh, non. Audi.
Mais si Mercedes, c'est pas loin. Bah, je dis que c'est Audi.
Allez, ça fait un quatrième point pour Arnaud qui revient sur les talons de Stephen. Alors, je vous donne les clubs d'un joueur français dans l'ordre.
Club d'un joueur français.
Et un joueur français qui joue en NBA cette saison.
Ouais.
Et vous me donnez le nom du joueur quand ça vous vient, bien sûr.
Bien sûr.
Dans l'ordre, il a joué à l'AS Orly.
Alexa.
Gershon.
Au COSM Arcueil. À Saint-Charles-Charenton.
Fournier.
Dadier.
Au centre. Comment
Dadier.
Non, au centre fédéral.
Salin.
Tidjane Salin, Cholet Basket et Charlotte Hornets. Il a démarré à Orly, le pépère.
Ouais.
Bravo, Fred.
Il a décollé depuis.
Ouais, je l'ai vu en plus.
Alors, si bon, vous avez vraiment, vraiment, vraiment bien
il a décollé depuis
la pré-saison.
Il a démarré à Orly, il a décollé depuis.
Ouais, c'est pas mal.
Ouais.
C'est pas mal. Est-ce que vous avez suivi l'histoire de Quincy Olivari?
Oui, qui a chialé, qui est fan de Curry. Voilà.
Et ben voilà, c'était ça la question.
De quoi?
De qui parle Olivari?
Stéphane Curry.
Voilà, Stéphane Curry.
Bah, je vais quand même prendre le point.
Mais tu prends le point, bien sûr. On va l'écouter quand même, Quincy Olivari. C'est une histoire qui fait chialer dans les chaumières aux États-Unis.
It's crazy because I've liked them since I was in like sixth grade. Like, it was. I don't even know what to say, man. Because, like, that's my favorite player ever. And, voilà.
C'est Steph Curry, il est dépité, Fred il trouve ça naze. Oui, Quincy Olivari n'a pas été drafté, il a fait la pré-saison et il vient de signer un two-way contract avec les Lakers. Il en a pleuré quand il a croisé la route de Steph Curry à qui il avait signé un maillot.
Ça, c'est parce que, je pense que Fred, c'est parce que t'as pas croisé de près Stephen Curry lors des JO, parce que nous on l'a fait et on a vu à quel point c'était un homme en or.
Mais j'ai pas chialé non plus.
Tu t'as parlé, tu lui as pas parlé.
Mais j'ai pas chialé non plus. Non, mais la question.
Non, mais tu t'es dit ça, c'est un vrai bon gars.
C'est un bon mec, oui. Comme Isaac, bon gars.
Ça, c'est un mec dont on va parler 10 jours et ensuite on va l'oublier. Oui. Barry, je vous reposerai la question en fin de saison. Tiens, qui était le joueur qui a chialé en 3 ans cette fois. On finit avec les questions multipoints. Qu'est-ce qu'on fait, aux enchères ou tour à tour? Parce que là, Fred, t'es loin. On va faire aux enchères. On va te donner une chance de gagner.
Oui, bah, ça dépend de la question. Hein. Oui.
10 joueurs à trouver. Les 10 plus gros salaires de la saison 2024-2025. Pas une erreur possible. Tu as 3 points de retard sur Steve. Quelle est ta première enchère?
3.
Mais tu peux pas gagner avec 3.
6.
6. Arnaud Valadon, est-ce que tu montes?
Il a dit 6.
Ouais.
Je laisse.
Tu laisses, Steph.
6.
T'en as 7 ou pas?
Qui a dit 6? Mais c'est un 6 bluff ou c'est un 6
Je pense que c'est du bluff.
C'est un 6 pour gagner, mais c'est bien vu. Hein.
Tu bluffes, Martoni.
C'est bien joué. 6, hein. c'est intermédiaire, tu peux les avoir. Et puis monter, c'est pas évident. Mais après, vous pouvez trouver les 10. Hein.
Laisse-le, Stephen. Il les a pas.
Il les a pas.
Fred, tu veux que je prenne la main ou pas?
Vas-y, tu fais ce que tu veux.
Je veux dire 7.
Tu dis 7, est-ce que tu enchéris, Fred?
Oui.
T'en as 8, bravo à toi. Excellent. On peut monter. Hein. Si tu te plantes, c'est Fred qui a gagné.
Pourquoi?
Bah, c'est comme ça, écoute.
Je suis devant Fred.
9.
Oh, il en a 9, il est chaud. Il est chaud. Alors, tu sais quoi ce qu'on va faire? J'ai laissé une chance à Arnaud. Tu vas me donner tes 9 noms, ok?
Et tu vas rien dire?
Je vais rien dire.
Steph Curry.
Mais pourquoi tu veux laisser une chance à Arnaud?
Non, on verra, on vous départagera. Fred, oui. Est-ce que tu enchéris ou pas à 10? Là, ça serait beau. Là, ça serait beau. Tu sais quoi, si tu montes à 10 et que tu trouves les 10, je reconnais que les Lakers sont la plus grande franchise de l'histoire.
10.
Allez, vas-y. Allez, vas-y, mon Fred.
Curry.
Steph Curry, c'est le numéro 1.
Jokic.
Jokic, il est numéro 3.
Embiid.
Embiid, il est numéro 2.
Anthony Davis.
Allez, hop, chute.
61 millions.
Chute à l'arrière.
Il a 61 millions, Anthony Davis.
Mais sur plusieurs années, sûrement.
Non, à l'année.
Ah non, je crois pas.
Steph Curry, 55, c'est numéro 1.
Et Luka.
Ça continue là ou c'est arrêté?
Bah c'est fini, c'est mort. Si vous voulez, vous pouvez les deviner.
Steph
mais...
Curry, c'est bon.
Steph Curry, Joel Embiid, Nikola Jokic.
Kevin Durant.
Lillard
n'y est pas.
Karl-Anthony Towns,
il y est.
Devin Booker,
il y est.
Yarudi.
Paul George,
il y est.
Bradley Beal,
quatrième salaire avec 50 millions. Tu te rends compte? Il t'en manque 2.
Kawhi Leonard ?
Kawhi, il y est, absolument. Et il y en a un dernier. En fait, ils sont 5 avec le même salaire à 49 millions et ils sont 6e du classement.
Bonbon est
donc
plus bas.
Donc, il y a Karl-Anthony Towns, Paul George, Kawhi Leonard, Devin Booker et Jalen Brown. Voilà, bravo.
Toujours pas de tatou.
Bravo à Stephen Brown qui conserve sa bague à la semaine prochaine.
T'as vérifié Anthony Davis ?
Ouais, mais je pense que c'est l'année prochaine alors qu'il a signé un
jeu. Je pense.
Ouais.
Mais 16e, Anthony Davis, c'est 16e. À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.